Troisième partie. Dans cette brume verte et or. Chapitre 1. Madame Tassenbaum va vers le sud. 1. La rapidité surnaturelle avec laquelle il se servait de ses mains ne frappa jamais Jack Chambers comme une évidence en tant que tel. Tout ce qu'il savait, c'est que, quand il quitta le Devartois la tête en bas pour rejoindre l'Amérique, sa chemise, gonflée par le poids du bafouilleux qu'il tenait contre lui, sortait de son jean. L'animal, qui n'était jamais très chanceux dès qu'il s'agissait de passer entre deux mondes, la dernière fois il avait failli se faire écrabouiller par un taxi, bascula dans le vide. Presque n'importe qui d'autre au monde aurait été incapable d'empêcher sa chute, chute qui n'aurait sans doute même pas blessé Othé. Mais Jack n'était pas n'importe qui. Le cas l'avait tellement voulu qu'il avait même trouvé un moyen de déjouer la mort pour le placer aux côtés de Roland. Ses mains jaillirent à une telle vitesse que le mouvement les rendit momentanément totalement flous. Lorsqu'elles réapparurent clairement, l'une d'elles était fermement accrochée à la touffe de poils laineux sur le cou d'Othé, et l'autre dans la fourrure plus courte et drue, à hauteur de sa croupe. Jack déposa son ami sur l'asphalte. Othé leva les yeux vers lui et émit un aboiement bref et éloquent, qui paraissait contenir non pas une, mais deux idées importantes. « Merci, et ne refais plus jamais ça. »«
Allons-y, » fit Roland. « Il faut nous dépêcher. »
Jack le suivit en direction du magasin, Othé reprenant sa place habituelle au pied du garçon. Il y avait une enseigne accrochée à la porte avec une petite ventouse en caoutchouc et qui disait « Nous sommes ouverts, venez donc nous rendre une petite visite. » Exactement comme en 1977. Et scotché dans la vitrine sur la gauche, « Venez tous au... » Premier dîner amical spécial Chili de la paroisse, samedi 19 juin 1999, croisement de la route 7 et de Clate. Salle paroissiale, à l'arrière, 17h-19h30. À la congrègue, on sera toujours content de te voir là, voisin. Jake se dit, ce dîner va commencer dans une heure environ. Ils doivent déjà être en train de mettre les nappes et de faire le plan de table. À droite de la porte, une annonce bien plus surprenante attira leur attention. Première église des entrants de Lovelstone Ham. Voulez-vous vous joindre à nous pour la prière? Service le dimanche à 10h et le jeudi à 19h. Soirée spéciale junior tous les mercredis de 19h à 21h. Jeux. Musique, lecture sainte. Et des nouvelles fraîches des entrants. Et les jeunes, seuls les ringards seront en retard. Nous cherchons la porte du paradis. La chercherez-vous avec nous? Jack se surprit à repenser à Harrigan, le prêcheur de rue à l'angle de la 2e avenue et de la 46e rue, et il se demanda par laquelle de ces deux églises il aurait été attiré. Sa tête lui aurait sans doute dit de tenter la congrègue, mais son cœur...
« Dépêche-toi, Jack, »
répéta Roland, et une clochette tinta lorsqu'il ouvrit la porte. Une bouffée d'odeur sauta au visage de Jack, lui rappelant, comme elle l'avait rappelé à Eddie, l'épicerie de Took, dans la grande rue de la Cala. Café, bonbons à la menthe, tabac et salami, huile d'olive... et aussi les relents salés de la saumure, le sucre et les épices. Que du bon. Il suivit Roland à l'intérieur et il se rendit compte qu'il avait quand même emporté deux choses en fin de compte. La mitraillette coyote coincée dans la ceinture de son jean et le sac d'oriza qui pendait toujours à son épaule gauche, bien calé, de sorte que la demi-douzaine de plats restants se trouverait à portée de sa main droite, en cas de nécessité. 2. Wendell Chip McAvoy se trouvait au comptoir de l'épicerie, a pesé une portion non négligeable de dinde fumée au miel pour Madame Tassenbaum, et avant que résonne le carillon de la porte, ce qui allait une fois de plus mettre sans dessus-dessous la vie de Chip, « T'as fait le coup de la tortue », disaient les vieux de la vieille quand leur voiture virait dans le fossé. Ils discutaient de prolifération des scooters des mers sur l'étang de Keewaddin, ou plutôt, c'était Madame Tassenbaum qui en discutait. Pour Chip, Madame T était plus ou moins l'archétype de la vacancière. Riche comme Crésus, son mari du moins qui avait surfé sur la vague des Pointcom, bavarde comme une perruche qui aurait bu et aussi barjot qu'Howard Hughes en plein trip à la morphine. Elle avait les moyens de s'offrir un yacht géant et 2 douzaines de scooters des mers pour le tirer si ça lui chantait. Mais elle venait faire son marché de ce côté-ci du lac dans une vieille barque cabossée, l'amarrant pile là où John Cullum avait pour coutume de se mettre. Jusqu'à ce jour-là. Comme avec les années son récit s'était épuré, s'était poli tel un vieux meuble en teck, Chip avait de plus en plus tendance à y associer des majuscules, à les mettre dans sa voix quand il parlait de « ce jour-là », avec ce même ton révérencieux qu'utilisait le révérend Convey au sujet de notre Seigneur. La Tassenbaum était bavarde, commère, belle, enfin, dans son genre, si on n'avait rien contre le maquillage et la laque, bourrée de fric et républicaine. Dans ces circonstances, Chip McAvoy considérait comme parfaitement légitime de glisser le pouce sur le coin du plateau de la balance. Astuce que lui avait enseigné son père, lui disant que c'était presque un devoir de rouler les visiteurs si ces derniers en avaient les moyens, mais qu'il ne fallait jamais rouler les gens de chez soi, pas même s'ils étaient aussi riches que cet écrivain, King, de Lovell, là-bas. Pourquoi ? Parce que ça finissait toujours par se savoir, et que bientôt on se retrouvait à devoir chercher des clients hors de la ville, ce qui devenait plutôt difficile en plein mois de février quand il y avait des congères de 2 mètres au bord de la route 7. Mais on n'était pas en février, et Madame Tassenbaum, une vraie fille d'Abraham, impossible de le cacher, n'était pas du coin. Non. Madame Tassenbaum et son Crésus.com de mari repartiraient pour New York dès que les premières feuilles tomberaient. C'est pourquoi Chip n'avait strictement aucun scrupule à transformer ses 6 dollars de dinde en 7 dollars et 80 cents, le tout d'une petite pression du pouce sur le plateau de la balance. Ça ne lui coûtait pas non plus de dire amen à tout ce qu'elle racontait, y compris quand elle changea de sujet pour raconter quel homme monstrueux était ce Bill Clinton, alors qu'en fait, Chip avait voté 2 fois pour Booba et qu'il aurait bien remis ça une 3e fois si la Constitution lui avait permis un mandat de plus. Booba était finaud. Il avait un talent pour convaincre tous ses mous du genou de faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas complètement oublié les travailleurs. Et, par Lord Harry, il se tapait tout ce qui passait. Il voyait plus de minous qu'une lunette de toilette. Et maintenant, voilà que Gore s'attend tout simplement à se faire élire dans la foulée, dit Madame Tassenbaum en fouillant dans son sac à la recherche de son carnet de chèques. La dinde sur la balance prit magiquement 50 grammes supplémentaires, et c'est alors que la prudence dicta à Chip d'arrêter les frais. « Il prétend avoir inventé Internet. Oh, comme si je ne savais pas de quoi je parle. Pour tout dire, je le connais personnellement, l'homme qui a réellement inventé Internet. » Elle releva les yeux. Le pouce de Chip s'était raisonnablement éloigné de la balance. Il avait de l'instinct avec ces choses-là, pour sûr, et adressa à Chip un petit sourire malicieux. Elle baissa la voix, prenant un ton confidentiel à la « ça reste entre nous ». « C'est bien normal. Je dors dans le même lit que lui depuis presque 20 ans. » Chip poussa un éclat de rire jovial, retira la dinde de la balance et la déposa sur une feuille de papier blanc. Il n'était pas mécontent d'abandonner le sujet des scooters des mers, vu qu'il venait d'en commander un chez Viking Motors, les petits gars des gadgets, à Oxford.
« Je vois ce que vous voulez dire. Ce gars, Gore, il est trop vicieux. »
Madame Tassenbaum hochait la tête d'un air réjoui. Aussi, Chip décida-t-il d'en rajouter une petite couche.
Ça ne pouvait pas faire de mal, nom de nom. « Prenez ses cheveux, par exemple. Comment on peut faire confiance à un homme qui se met autant de gomina dans les... »
C'est à ce moment-là que résonna le carillon de l'entrée. Chip leva les yeux. Il vit. Il se figea. Il était passé un foutu paquet d'eau sous les ponts depuis ce jour-là. Mais Wendell Chip McAvoy reconnut l'homme qui avait causé tant de problèmes à la seconde où il franchit la porte. Il y avait des visages qu'on n'oubliait pas, un point c'est tout. Et n'avait-il pas toujours su, dans le secret de son cœur, que cet homme aux terribles yeux bleus n'avait pas terminé son œuvre et qu'il reviendrait? Pour lui, cette idée le sortit de sa paralysie. Chip se retourna et détala. Il ne fit pas plus de 3 pas avant qu'un coup de feu éclate dans la boutique, aussi clair que le tonnerre. La pièce était plus spacieuse et plus coquette qu'en 1977. Dieu bénisse son père d'avoir insisté pour prendre cette assurance ruineuse. Et Madame Tassenbaum poussa un cri perçant. 3 ou 4 personnes qui déambulaient dans les rayons firent volte-face avec une expression de surprise, et l'une d'elles s'écroula évanouie sur le sol. Chip eut le temps d'enregistrer qu'il s'agissait de Rhoda Beamer, la fille aînée de l'une des 2 femmes qui avait été tuée ici même ce jour-là. Il lui sembla que le temps s'était replié sur lui-même, et que c'était Ruth qui gisait là, avec une boîte de maïs roulant de sa main sur le sol. Il entendit le sifflement d'une balle au-dessus de sa tête, comme une abeille en colère, et il s'immobilisa, les mains en l'air.
« Ne tirez pas, monsieur !»
s'entendit-il supplier d'une voix maigrelette et tremblante de vieillard.
« Prenez tout ce qu'il y a dans la caisse, mais ne me tuez pas !»«
Retournez-vous !»
fit la voix de l'homme qui avait fait le coup de la tortue à la vie de Chip ce jour-là. Cet homme, qui avait bien failli le faire tuer, il avait passé 2 semaines à l'hôpital de Bridgeton, d'où Jésus, et qui avait à présent reparu comme un vieux monstre dans un placard d'enfant.
Les autres tous à terre, mais vous, épicier, retournez-vous. Retournez-vous et regardez-moi. Regardez-moi bien.
3. L'homme vacilla sur ses pieds et, l'espace d'une seconde, Roland crut bien qu'il allait s'évanouir au lieu de se retourner. Peut-être une partie de son cerveau, concentrée sur l'instinct de survie, lui suggéra-t-elle qu'il risquait plus de se faire tuer en tombant dans les vapes, car l'épicier réussit à tenir sur ses pieds et finit par se retourner pour faire face au pistolero. Il était habillé de manière étrangement semblable à la dernière fois que Roland était venu. Sa cravate noire et son tablier de boucher noué haut sur la taille auraient pu être les mêmes qu'à l'époque. Il plaquait toujours ses cheveux en arrière sur le crâne. Toutefois, il n'était plus poivre et sel, mais complètement blanc à présent. Roland se remémora la façon dont le sang avait jailli de la tempe gauche de l'épicier quand une balle, tirée par Jack Andolini lui-même, pour autant que le pistolero le sache, l'avait raflé. Une cicatrice grise et épaisse signalait désormais l'emplacement de la blessure. Roland eut le sentiment que l'homme se coiffait de manière à montrer la balafre plutôt qu'à la camoufler. Ou bien il avait eu ce jour-là la chance des idiots, ou bien le cas l'avait sauvé. Roland avait tendance à opter pour le cas. À en juger par l'expression maladive de reconnaissance qu'il lut dans le regard de l'épicier, lui aussi.
« Est-ce que vous avez une carte au mobile ?» « Ou un camiobile, ou bien un taxi ?»
demanda Roland en maintenant le canon de son arme contre l'estomac de l'homme. Jake s'approcha aux côtés de Roland.
« Qu'est-ce que vous conduisez ? C'est ce qu'il veut dire. »«
Un camion ?»
réussit à articuler l'épicier. Une camionnette internationale Harvester. Elle est dehors sur le parking. » Il se mit subitement à fouiller sous son tablier et, surpris, Roland se retrouva à deux doigts de lui mettre une balle dans le ventre. L'épicier, Dieu merci, ne parut pas s'en apercevoir. Tous les clients de la boutique étaient à présent étendus face contre terre, y compris la femme qui se trouvait près du comptoir. Roland sentait l'odeur de la viande qu'elle était en train d'acheter et son estomac se mit à gargouiller. Il était fatigué et affamé, écrasé de chagrin, et il avait trop de choses en tête qu'il lui fallait régler, beaucoup trop. Son esprit n'arrivait plus à suivre. Jake aurait dit qu'il avait besoin de faire un break, mais il ne voyait pas de break se profiler dans leur avenir immédiat. L'épicier lui tendait un jeu de clés. Il avait les doigts qui tremblaient et les clés tintinabulaient. Le soleil de la fin d'après-midi qui se glissait par les fentes des stores projetait des motifs compliqués dans les yeux du pistolero. L'homme en tablier avait commencé par bouger subitement la main sans même lui demander la permission, et voilà que maintenant il lui agitait des objets métalliques sous le nez pour aveugler l'adversaire. On aurait dit qu'il faisait tout son possible pour se faire tuer. Mais c'était déjà la même chose le jour de l'embuscade, pas vrai? L'épicier, alors plus rapide de mouvement et les chines moins courbées qu'aujourd'hui, les avait suivis, lui et Eddie, comme un chat qui n'arrêtait pas de leur tourner dans les pattes, visiblement inconscient des balles qui volaient tout autour d'eux. Tout comme il n'avait pas paru prendre conscience de celle qui lui avait balafré la tête. À un moment, se rappelait Roland, il avait parlé de son fils, presque comme un client chez le coiffeur qui discute en attendant son tour de passer au bac. Un camé, et les camés, se retrouvaient souvent à l'abri des coups, du moins jusqu'à ce que le cas se fatigue de leur mimique et les écrase sans pitié. « Prenez le camion, prenez-le et partez !» lui disait l'épicier. « Il est à vous, je vous le donne, vraiment !»
« Si vous n'arrêtez pas immédiatement de m'éblouir avec vos clés, Sai, ce que je vais surtout prendre, c'est votre dernier soupir. »
Il y avait encore une horloge derrière le comptoir. Il avait déjà remarqué que ce monde était truffé d'horloges, comme si ceux qui vivaient ici pensaient qu'ainsi ils pourraient changer le temps. 10 minutes de 4 heures, ce qui signifiait qu'ils étaient côté Amérique depuis déjà 9 minutes. Le temps s'accélérait. Quelque part près d'ici, Stephen King faisait certainement sa promenade de l'après-midi et se trouvait dans un danger mortel sans le savoir. Ou bien était-il déjà trop tard? Ils étaient toujours partis du principe, Roland en tout cas, que la mort de l'écrivain les terrasserait comme un autre tremblement de rayon, mais peut-être que non. Peut-être que l'impact de sa mort serait plus progressif.
Quelle distance d'ici au chemin du dos de la tortue?
Aboya Roland à l'intention de l'épicier. Le vieux Sai se contenta de le fixer, les yeux écarquillés et rendus humides par la terreur. Jamais de sa vie Roland n'avait eu autant envie de tuer un homme, ou du moins de le frapper d'un coup de crosse. Il avait l'air aussi stupide qu'une chèvre qui se serait coincée la patte dans un trou. Puis la femme allongée au pied du comptoir à viande prit la parole. Elle levait les yeux vers Roland et Jack, les mains serrées dans le bas de son dos.
« C'est à Lovell, monsieur, et c'est à environ 8 kilomètres d'ici. »
Il suffit à Roland d'un regard dans ses yeux, grand et marron, effrayé mais pas paniqué. Pour savoir que c'était elle qu'il lui fallait, bien plus que l'épicier, à moins que... Bien sûr. Il se tourna vers Jake.
« Peux-tu conduire le camion sur 8 kilomètres ?»
Roland vit que le garçon voulait répondre oui, puis qu'il comprenait qu'il ne pouvait prendre le risque de tout faire échouer au dernier moment en essayant de faire une chose que lui, le petit citadin, n'avait jamais faite de sa vie.
« Non. » répondit-il. « Je ne crois pas. Et toi ?»
Roland avait observé Eddie en train de conduire la voiture de John Cullum.
Ça n'avait pas l'air si difficile, mais il devait compter avec sa hanche.
Rosa lui avait dit que l'arthrite sèche progressait très vite, comme un feu poussé par des vents farouches, avait-elle dit. Et à présent, il mesurait ce qu'elle avait voulu dire. Sur la piste de Calabrine Sturgis, sa douleur dans la hanche se résumait à un petit pincement de temps à autre. Maintenant, c'était comme si on lui avait injecté du plomb en fusion dans la tête d'os, puis qu'on l'avait enveloppé de fil barbelé. La douleur irradiait tout le long de la jambe, jusque dans la cheville droite. Il avait vu Eddie jouer avec les pédales, jongler entre celles qui faisaient accélérer l'engin et celles qui le faisaient ralentir, le tout en utilisant le pied droit, ce qui signifiait que sa hanche serait en perpétuel mouvement. Il ne se croyait pas capable d'une chose pareille, pas sans prendre des risques énormes.
« Je ne crois pas, » dit-il.
Il prit les clés des mains de l'épicier, puis baissa les yeux vers la femme allongée au pied du comptoir.
« Levez-vous, Sai, » ordonna-t-il.
Madame Tassenbaum s'exécuta, et lorsqu'elle fut sur ses pieds, Roland lui donna le trousseau de clés.
« Je n'arrête pas de rencontrer des gens utiles par ici, » se dit-il. « Si celle-ci est aussi précieuse que John Cullum s'est révélé l'être, on peut encore s'en tirer. « Vous allez nous conduire, mon jeune ami et moi-même, jusqu'à Lovell. »«
Au chemin du dos de la tortue, »
dit-elle.
« Vous dites vrai, je dis grand merci. »«
Est-ce que, quand vous serez arrivé à destination, vous me tuerez ?»«
Uniquement si vous traînassez. »
Elle parut réfléchir, puis hocha la tête.
« Alors, je ne traînasserai pas. Allons-y. »«
Bonne chance, madame Tassenbaum !» fit l'épicier d'une petite voix, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte.
« Si je ne reviens pas, »
dit-elle,
« rappelez-vous seulement ceci. C'est mon mari qui a inventé Internet. Lui et ses amis, en partie chez Caltech et en partie dans leur garage. Et certainement pas Al Gore. »
L'estomac de Roland se remit à gargouiller. Il se pencha par-dessus le comptoir. L'épicier eut un mouvement de recul, comme s'il soupçonnait Roland d'être porteur de la peste rouge, attrapa le paquet de dinde de la femme et s'en fourra trois tranches dans la bouche. Il tendit le reste à Jack, qui en mangea deux tranches, puis baissa les yeux vers Othé, qui jetait sur la viande un regard de convoitise.
« Je te donnerai ta part en montant dans le camion, »
promit le jeune garçon.
« Mion !»
fiotait avec beaucoup d'emphase.
« Pars !»«
Jésus-Marie-Joseph !»
commenta l'épicier.